Donc, Henri Corbin était un métaphysicien. Le thème du combat dans son œuvre ne peut s'entendre autrement que métaphysiquement. Suivant cette importante mise en garde, je ferai un tour historique de l'évolution du thème du combat en retraçant les premières occurrences. Je précise que je ne vais pas aborder la justesse des interprétations corbiniennes en lien avec la philosophie islamique, seulement les organiser et les décrire. Ensuite, je vais interroger la perspective philosophique de l'auteur autour de la notion de combat. Mon objectif est de présenter l'évolution du thème du combat, mais surtout le rapport de Corbin à celui-ci, notamment en relation avec son protestantisme. Dans un dernier temps, je vais traiter du militantisme métaphysique de Corbin, période qui débute approximativement au début des années 70. Un engagement métaphysique qui m'apparaît beaucoup plus proche de son protestantisme que d'autres choses. L'expression du combat. La première chose à noter, c'est l'absence de traces dans ses livres et ses articles de la notion de djihad ou du terme de djihad. Donc, ou même de réflexion sur la guerre ou la guerre sainte. Cela dit, si dans l'œuvre écrite de Corbin, cette notion est absente, il existe un enregistrement audio où Corbin parle du djihad. Et puisque c'est la journée Corbin, nous prendrons 6 minutes à la fin de ma communication pour écouter l'extrait et entendre la voix du célèbre iranologue. Description cosmologique et combat spirituel. Dans l'introduction de la duplication de l'autel, Platon et le problème de Délos, de Mola Lutfil Maktoul, livre méconnu, édité et traduit par Corbin en 1940, l'idée de combat spirituel est déjà présente. Mais en ce qui concerne la première occurrence textuelle de l'expression « combat spirituel », je l'ai trouvée dans un volume daté de 1953. Et même si cette occurrence n'est pas directement de la main de Corbin, car il s'agit d'une occurrence trouvée dans la traduction du commentaire persan du récit d'Ay ibn Yaqzan, qui deviendra plus tard la seconde partie d'Avicenne et le récit visionnaire, cela est tout de même intéressant pour la question de la chronologie. Voici le passage où l'expression se trouve. Aussi, le maître dit-il, parfois des esselés émigrent auprès du roi et il les comble de douceur, c'est-à-dire lorsqu'ils deviennent capables d'appréhender et de comprendre, ils connaissent ses états futurs, en particulier ceux-là qui mènent le combat spirituel. C'est une précision est cependant nécessaire, car le thème du combat est bien présent et ce dès 1949, mais dans un texte inédit. Donc dans les morceaux repris de « Combat pour l'ange », dans sa conférence Eranos de 1951 sur le temps cyclique dans le masdéisme et l'ismaélisme, l'expression « combat spirituel » n'y figure pas, elle, directement, textuellement. Donc, une précision, que signifie Corbin lorsqu'il utilise l'expression « combat spirituel » ? De manière générale, il s'agit du combat contre soi. Mais lorsque ce combat est appréhendé du point de vue des structures métaphysiques, Corbin parle du drame dans le ciel, expression qui elle-même mutera ultérieurement en catastrophe métaphysique. La mytho-histoire, lire ici hiéro-histoire ou méta-histoire, puisque le terme mytho-histoire là, est inspiré de ces lectures là, de Mircea Eliade à cette époque-là, puisque l'extrait date de 1949. Donc, la mytho-histoire s'origine certes à un drame dans le ciel qui a pour héros le troisième archange issu de la dyade primordiale. Mais cet archange a arraché de lui-même son propre Iblis, comme un archange Michel remportant sur lui-même sa propre victoire. Il n'est point déchu à ce monde, hors du plérôme. Il fut le démiurge de ce monde, mais afin de permettre aux siens de combattre, de résorber la postérité de l'ombre, c'est-à-dire la postérité d'Iblis. Cet aspect du combat de l'ange, en lien avec la dramaturgie cosmogonique masdéenne et ismaélienne, fut exploré par Corbin essentiellement dans la décennie 45-55. En 1954, lorsque Corbin cherche à décrire le rapport de réciprocité métaphysique du combat spirituel, il écrit « Le synchronisme, ici, annonce la structure propre de l'individualité. Il ne s'agit pas d'un sentiment du moi portant celui-ci au rang d'une autonomie solitaire, d'une singularité close sur elle-même. Au moment où l'âme se découvre comme étrangère et solitaire dans un monde qui lui avait été familier, se profile à son horizon une figure personnelle, s'annonçant personnellement à elle, parce qu'elle symbolise avec son fond le plus intime. Autrement dit, l'âme se découvre comme étant la contrepartie terrestre d'un autre être avec lequel elle forme une totalité de structure duelle. Ces deux éléments, cette dualitude, peuvent être désignés comme le soi et le moi, ou comme le moi céleste transcendant et le moi terrestre, ou sous d'autres noms encore. De ces premiers éléments, il faut tirer un double constat. Chez Corbin, le combat spirituel n'est pas un combat psychologique, mais bien métaphysique. Et cette métaphysique supporte et ouvre un rapport personnel à la dimension spirituelle. En d'autres mots, la personne mène un combat spirituel face à et en réciprocité à une structure métaphysique. Reste que les premières traces du thème du combat réfèrent généralement au combat métaphysique du mazdéisme, où les forces de lumière affrontent les forces de ténèbres. Voilà. À cet égard, si finalement âme et Fravarti ont été identifiés l'une à l'autre, c'est parce que l'on concevait les Fravarti comme ayant accepté de quitter le royaume de pure lumière pour venir combattre sur Terre les contre-puissances démoniaques. L'âme pure, fidèle à Hormast sur Terre, est donc en fait la Fravarti même. Elle en est la condition terrestre, condition passagère qui n'abolit nullement comme telle la structure biunitaire. Car alors, le double de la Fravarti, devenu terrestre, est à concevoir comme sa Daena, c'est-à-dire comme son moi céleste, qui est la pure lumière de sa foi, préexistant à sa condition terrestre. La rencontre eschatologique qui confère sa suprême signification au motif de l'homme et son ange a lieu alors entre la Fravarti et sa Daena. C'est d'abord et avant tout la description de ce combat de l'ange qui doit être compris, selon Corbin, comme un combat pour l'ange. Le motif de l'ange est aussi généralement lié aux premières occurrences du thème. Cette exploration spécifique du mazdéisme et de l'ismaélisme correspond essentiellement à ses travaux de la décennie 1945-55, comme je le disais. Sa conférence Eranos de 1951 sur le temps cyclique dans le mazdéisme et l'ismaélisme, de même que son ouvrage non publié de 1949 intitulé « Combat pour l'ange », sont typiques de cette période. Les textes sont tout à fait de l'ordre du descriptif. Corbin cherche à expliquer les structures métaphysiques et angélologiques des différents courants de pensée anciens qui irriguent la philosophie iranienne. Évolution du thème du combat. Pour faire simple, j'ai l'impression qu'il y a deux familles d'utilisation du mot combat. L'une est descriptive, l'autre philosophique. En ce qui concerne l'évaluation et la justesse de l'utilisation de la notion de combat dans le mazdéisme et l'ismaélisme, je vais laisser ça à mes collègues orientalistes. En ce qui concerne la portée philosophique du thème du combat spirituel, je vais maintenant montrer comment celui-ci évolue en trois temps spécifiques. Je viens de présenter le premier temps, la décennie 45-55, où Corbin a essentiellement une utilisation descriptive du thème en lien avec les cosmogonies mazdéennes et ismaéliennes. Le deuxième temps se cristallise autour de sa conférence Eranos de 1961. Je vais montrer comment le combat spirituel tel qu'il est pensé par Corbin est l'héritier de son protestantisme. La dernière évolution concerne, quant à elle, les 10 dernières années de sa vie, la décennie 68-78. J'y reviens plus tard. Positionnement corbinien. Même si, comme je viens de le dire, dans la décennie 45-55, qui vise essentiellement à décrire et expliciter les doctrines iraniennes anciennes, on sent déjà poindre à l'horizon l'évolution de la perspective corbinienne autour du thème du combat dans un extrait de 1951. L'abolition de la dualitude n'est consommée que si la Fravarti succombe aux ténèbres. Ce qui, eschatologiquement, s'offre alors à l'homme, c'est une fausse Daena, caricature de son humanité mutilée, reflet de lui-même, réduit à lui-même. L'évolution de sa pensée est sous-entendue dans le choix des mots très forts qui sont utilisés et qui reflètent essentiellement sa propre perspective sur la socialisation et la laïcisation de la société. Notez d'ailleurs le mot « caricature », car il reviendra, ce qui semble dénoter la consistance de sa pensée qui sera seulement de plus en plus assumée et explicite au fil des ans. Une socialisation et laïcisation bien présente dans les années 50, et ça autant en France qu'en Iran. Si dans la décennie 45-55, la position corbinienne est généralement sous-entendue, à partir du début des années 60, un saut s'opère, car le combat pour l'ange n'est plus simplement perçu par Corbin comme une doctrine métaphysique à décrire à partir de manuscrits. Le combat pour l'ange devient le combat de l'Iran et des Iraniens actuels. Le combat du chiisme devant le monde. Retenez aussi cette expression. Cette transformation du thème du combat spirituel apparaît clairement dans sa conférence prononcée au Cercle Eranos en 1961 et intitulée « Combat spirituel du chiisme ». En effet, la session Eranos de cette année-là se tenait sous le thème « L'humain dans le conflit des structures ». Ceux qui connaissent bien l'œuvre de Corbin savent que ses livres sont pour la plupart issus du remaniement de ses conférences Eranos. De plus, ceux qui ont lu attentivement en islam iranien se souviennent que le chapitre 3 du tome 1er est intitulé « Combat spirituel du chiisme ». S'il s'agit bien du même texte, il faut immédiatement préciser que si celui-ci est reproduit fidèlement dans un islam iranien, celui-ci est reproduit à une différence près. Les pages qui ouvrent le texte d'origine, c'est-à-dire les pages 69 à 83, sont manquantes dans la reprise du texte en islam iranien. Et c'est spécifiquement ces pages qui permettent de bien saisir l'évolution du thème du combat. Je précise encore davantage, car si les pages introductives de la conférence sont bien absentes du chapitre 3 dans l'islam iranien, Corbin fait une sorte de collage, Corbin fait une sorte de collage et réécrit et insère environ 4 pages de l'introduction de la conférence d'Eranos pour compléter l'introduction dans l'islam iranien. Et ces pages sont celles sur Berdiaïev et sur le temps existentiel qui ouvre à la hiéro-histoire. J'y reviens dans quelques instants. Car ces pages furent l'occasion pour Corbin d'énoncer la tension vécue par les Iraniens entre le traditionalisme et le modernisme, tension pouvant être perçue comme un combat. La section introductive du texte sur le combat spirituel du chiisme porte le sous-titre « Expérience religieuse immédiate et socialisation du spirituel ». Elle est beaucoup plus générale et cherche à positionner le problème dans l'espace philosophique de son temps. Ce type de réflexion est vraiment rare dans l'œuvre de Corbin, et surtout, quand il y en a, ils sont surtout présentés de façon très allusive. Donc, ce texte est peut-être l'un des plus explicites. Rappelons aussi qu'au Cercle Eranos, Corbin se trouve en très bonne compagnie. En 1961, il participe à sa 12e session au Cercle Eranos. Il y retrouve encore une fois Scholem, Iliad et Portman, et par exemple Zucker Kendel. Corbin est donc en face d'une assemblée amicale qu'il l'estime personnellement. Cette ambiance a certainement favorisé le ton le plus personnel de la première section du texte, d'où le fait qu'il ne la reprend pas textuellement dans un islam iranien. D'un point de vue philosophique, plusieurs notions présentées antérieurement à Eranos viennent s'imbriquer les unes dans les autres dans cette réflexion sur l'expérience religieuse immédiate et la socialisation du spirituel. Les notions de phénomène du livre saint ou révélé et d'herméneutique viennent s'attacher dans un édifice philosophique plus vaste qui sera lui-même déployé ultérieurement. Comme il l'écrit, on peut dire que le phénomène du livre saint révélé implique une anthropologie propre, voire un type de culture spirituelle déterminée. En positionnant dans un contexte anthropologique plus général le phénomène du livre saint et celui d'herméneutique, Corbin se permet également de faire des rapprochements entre la Bible et le Coran via cette anthropologie spirituelle. Sous cet angle, chrétienté et islamité ont été mis en face d'une situation similaire qui les a respectivement conduits à découvrir des situations herméneutiques analogues. C'est le début de la philosophie comparée chez Corbin. Le phénomène du livre saint, nommé également fait scripturaire prophétique, et l'herméneutique ouvre quant à elle un champ de rapport dont la tension s'établit entre l'expérience personnelle et la socialisation du spirituel. Il faut bien voir dans l'élaboration de cette anthropologie à propension prophétique que selon Corbin, même si les croyants ont été face aux mêmes problèmes herméneutiques, le christianisme a mis en place un magistère dogmatique se substituant à l'inspiration prophétique. En d'autres termes, et comme Corbin l'écrit, précisément, l'on peut dire que la séparation entre théologie et philosophie est le premier symptôme d'une sécularisation de la conscience. Pour Corbin, l'Occident a perdu de vue graduellement l'esprit prophétique et cette perte ou incompréhension occidentale a trop souvent nui à la capacité de comprendre la philosophie prophétique iranienne et l'anthropologie spirituelle qui l'accompagne. C'est dans ce contexte spécifique qu'il insiste autant sur la notion de théosophia, et qu'il cherche à lire et comprendre les penseurs occidentaux n'ayant jamais opéré cette séparation radicale. Percevoir la conscience spirituelle, c'est l'objet du combat spirituel. Positionnement protestant de Corbin. Si Corbin est si sensible à cette incompréhension occidentale du prophétisme, c'est très certainement à cause de sa conversion en jeune âge au protestantisme et de ses travaux sur Luther et Amann. À travers l'idée d'herméneutique spirituelle, il établit un pont entre les penseurs et théosophes chrétiens comme Böhm, Schwenkfeld, Wiegel et les penseurs et théosophes musulmans comme Rusbehan, Ibn Arabi puis Mollah Sadra. C'est le début de l'herméneutique spirituelle comparée. Préserver la conscience spirituelle, objet du combat spirituel, ai-je dit, voilà un but qui s'applique à l'ensemble des religions du livre et cette généralisation-là, justement, correspond à la dernière évolution du thème dans son œuvre. Mais avant d'arriver là, il est important de comprendre comment le protestantisme de Corbin l'a prédisposé à l'établissement d'une philosophie prophétique qui serait l'objet du combat spirituel. Dans un texte de 1937, rédigé pour la revue théologique suisse intitulé « De la vocation de docteur », malheureusement réintitulé par l'éditeur « Vocation du théologien », Corbin a écrit ceci. S'adonner à la science n'est donc pas, ne doit pas être, une occupation qui s'ajoute par hasard à d'autres. La qualité de savant n'est pas, ne doit pas être, un attribut qui s'ajoute à notre être comme un vêtement que l'on relèguerait au vestiaire à heure fixe. C'est la forme de notre vie qui s'exprime ici, notre responsabilité la plus concrète. Il poursuit un peu plus loin et rappelle en ce sens que la science ou l'intelligence est ce qui métamorphose le monde, de même que le grand arbre métamorphose le désert. Cette posture et cette attitude protestante lui permettent de percevoir qu'entre le catholicisme et le positivisme, images symétriquement inverses l'une de l'autre, il n'est pas déçu, ou plutôt, il n'en est qu'une, la liberté de l'homme évangélique. Retenez encore ici le thème de la liberté qui reviendra un peu plus loin. Ici, cette opposition peut aussi être comprise comme celle du cléricalisme face au laïcisme, mais la seule réponse à donner, c'est la liberté de l'homme évangélique. Dans cet article, il énonce clairement ce qu'il entend, dans l'article de 1937, par théologie, par le théologos. Théologie, selon l'origine grecque du mot, tout théologos, cela veut dire la parole que l'homme articule et la pensée que l'homme pense par l'esprit de cette parole et de cette pensée qui subsiste éternellement. Ce n'est pas un discours sur Dieu, mais plutôt un discours par Dieu. On revient à une partie des thèmes que M. Jambet a abordés. Voyez le renversement qu'il applique ensuite à la notion d'ange. Le combat qu'ils doivent mener, je cite, sur terre est un combat pour l'ange, non pas un combat avec l'ange, c'est-à-dire contre l'ange. Cette attitude protestante opère le renversement du cogito ergo sum par le cogitor ergo sum, du « je pense donc je suis » par la forme passive « je suis parce que je suis pensé ». Renversement de l'herméneutique, du symbole et d'une certaine phénoménologie. Comme protestant, Corbin a appliqué cette logique autant aux institutions qu'à la science. Cela est caractéristique de son opposition viscérale, de son combat envers les structures de pouvoir proposant des vérités exclusives les unes aux autres. Corbin dit, par exemple, « nous chiites » ou Quand Corbin dit, par exemple, « nous chiites » ou qu'il développe le thème de « l'Église invisible », il renverse les structures de pouvoir que lorsqu'il dit, de la même manière que lorsqu'il dit, par exemple, « nous protestants » et fait appel à la liberté évangélique. C'est d'ailleurs cette attitude qui motive son champ d'intérêt en philosophie islamique. Non pas la pensée rationnelle, non pas la dogmatique, non pas les institutions religico-politiques, mais le philosophe face à l'esprit en quête de ce dernier, la gnose. Souvent, j'ai affirmé que l'œuvre de Corbin était une, mais évolutive. C'est-à-dire que sa pensée possède une cohérence de sa jeunesse jusqu'à sa mort, même si cette pensée évolue. Ce que je viens de citer à propos du Logos et de sa théologie, et de la théologie date de 1937. Corbin avait 34 ans à l'époque. Dans le prologue d'Un Islam iranien, rédigé près de 30 ans plus tard, Corbin reprend à peu près exactement le même thème. En revanche, lutter contre le soi-disant dépassé en se lançant dans une course éperdue à l'histoire est un combat sans espoir, parce que livré contre une partie inconsciente de nous-mêmes dont nous fuyons alors la caricature. On entend couramment dire que, de nos jours, la philosophie de l'histoire périclite, mais qu'en revanche, la théologie de l'histoire prend son essor. À vrai dire, l'idée d'une théologie de l'histoire n'est pas nouvelle. En islam, c'est aux penseurs chiites et ismaéliens qu'en revient le mérite par leur philosophie prophétique. Malheureusement, dans un certain christianisme de nos jours, il semble que ce soit parce qu'elle a perdu son logos que la théologie se sente d'autant plus encline à l'aventure. Cela, certes, est nouveau, voire une nouveauté qu'il est plus urgent, mais plus difficile de surmonter que n'importe quel passé dépassé, parce qu'elle est le symptôme d'une désorientation radicale. Sur le sens imposé par d'autres à l'histoire, une théologie tente de rivaliser avec son propre produit sécularisé, mais en oubliant que sa dimension propre est eschatologique et que l'eschatologie est la fin de l'histoire. Ça nous rappelle le commentaire sur Marcel Gauchet là, de tantôt. Une théologie ou une philosophie de l'histoire sont impensables sans une image du monde qui, dans sa totalité, précède et devance toutes les données empiriques. Elles ne sont possibles que de la part d'un être qui ne soit non pas dans l'histoire, mais transhistorique. Donc, de l'actualité du combat spirituel. L'évolution de sa pensée, thématisée par les premières pages de sa conférence sur le combat spirituel du chiisme, représente la cristallisation d'une anthropologie spirituelle fondée sur la reconnaissance du phénomène du livre et qui s'appuie sur la phénoménologie et l'herméneutique spirituelle qui rend possible un mode de comprendre sauvegardant le sens vrai du livre révélé. Non plus théologie ou philosophie, mais une théosophia dévoilant une philosophie prophétique. La sauvegarde de cette famille de notions soutient la conscience spirituelle. C'est cela le combat spirituel pour Corbin. Le plus intéressant du texte, c'est qu'il laisse transparaître la pensée propre de Henri Corbin. Pour le dire autrement, la distance entre la pensée analysante, la pensée de Corbin, et la pensée analysée, le texte, est quasiment nulle. Ces mêmes pages introductives énoncent aussi une question inusitée pour l'œuvre de Corbin. Il formule la question suivante. Comment y aurait-il à formuler le message du chiisme devant le monde actuel? Cette question est inusitée car elle fait référence au monde contemporain, ce qui est très rare dans l'œuvre de Corbin. C'est aussi une interprétation de cette position qui a d'ailleurs favorisé la récupération de la pensée corbinienne par une frange de traditionalistes conservateurs. Ce que Corbin énonce par cette question, c'est les tensions schizophrènes vécues en islam entre le traditionalisme et la sécularisation. Dans les archives de Henri et Stella Corbin, on trouve aussi un texte dactylographié daté du 8 novembre 1960, intitulé « Notes pour un entretien sur le chiisme devant le monde ». Texte qui a été écrit dans le contexte des rencontres de Corbin avec Tabatabai et qui se sont déroulées à partir de l'automne 58. Il semble que cette note soit la source de l'ensemble du développement autour du combat spirituel du chiisme. La nature de cette note explique aussi le ton et l'attitude assez polarisante utilisée par Corbin. L'objectif était d'établir la source possible des tensions entre théologie et philosophie occidentale, mais surtout de montrer comment se distingue la pensée chiite. L'emphase mise sur l'imamologie s'explique aussi par cette orientation. Ce texte peut se lire comme une sorte de manifeste. Pour dégager le problème auquel auront à faire face les musulmans, Corbin part d'un exemple concret, le témoignage d'une personnalité jordanienne publié dans le Figaro du 17 octobre 1960. Pour Corbin, cet article dénote le leitmotiv fondamental du problème. Il y fera d'ailleurs plusieurs fois référence dans son œuvre. Un texte présenté comme l'archétype de la schizophrénie vécue entre traditionalisme et modernisme et comme un parfait exemple de l'envahissement de la pensée occidentale en Orient. Voici ce que rapportait l'article. « Comme je vis avec mon temps et que j'ai reçu une éducation occidentale, le progrès ne m'apparaît possible qu'en dehors de la tradition. Nous sommes nombreux en Jordanie à penser ainsi, à tenter d'impossibles synthèses. Comme tous nos frères arabes et musulmans du monde, quand ils se mettent à penser, nous vivons un drame atroce. » Désolé, je les ai gardés en petit, ça rend la lecture difficile sur ma feuille. « Est-il possible de ne pas tuer Dieu en tentant d'isoler la religion d'un système social condamné par le progrès technique et scientifique? Dans notre islam, la religion et la société sont confondues. L'une et l'autre n'existent que par l'union inséparable des deux. Est-il possible de nous moderniser sans nous damner ?» demande cette personnalité. Le déchirement vécu par cette personnalité musulmane de Jordanie est effectivement schizophrénique, car elle est envahie par une idéologie étrangère à sa culture et n'arrive pas à en sécréter l'antidote. On comprend par ce témoignage la tension sécularisatrice et la tension traditionnaliste, la démocratie libérale et le conservatisme religieux à l'œuvre dans la société. Ce témoignage permet de circonscrire le déchirement intérieur avant que celui-ci ne s'instaure en idéologie. L'alternative est désespérante, soit la haine de l'autre, soit la haine de soi. Pour Corbin, le premier signe de cette déchirure de l'âme est l'idée que l'on est de son temps plutôt que son temps propre. Vivre avec son temps, comme l'a énoncé cette personnalité jordanienne, est le signe indubitable de l'incapacité à pouvoir devenir soi-même. Une première affirmation typique éclate dans la répétition du slogan « Vivre avec son temps ». Qui donc donnera à notre musulman désemparé la conscience et le courage de vivre son temps personnel, non pas celui de tout le monde, en lui enseignant la différence, pourtant bien déjà connue par les mystiques en islam, entre le temps historique et le temps existentiel. Parce que c'est en ces temps-là seulement, le temps existentiel, que se transmet vivante une tradition qui est une inspiration sans cesse renouvelée, non pas un cortège historique ou un registre des opinions conformes. Pour Corbin, sacrifier l'au-delà théologique, la verticalité ouverte de la transcendance du monothéisme a permis le développement de la démocratie libérale construite sur la laïcisation de la théologie chrétienne. La même chose se passe actuellement dans le monde musulman où l'institutionnalisation de l'islam impose que l'on se soumette aux opinions conformes, tuant dans l'œuf la transmission vivante de la foi musulmane, une transmission véritablement traditionnelle. Sans embâge, Corbin explique « La religion comme Église est devenue volonté de puissance. Le magistère de l'Église s'est substitué à l'inspiration divine. Elle emprisonne chaque âme dans son autorité. Si l'on ne comprend pas ce phénomène Église, on ne peut comprendre le phénomène des sociétés totalitaires de nos jours. Ces dernières en sont la laïcisation, la sécularisation. Mais les langages offrent d'étranges similitudes. C'est ce que nous voulons dire en disant que l'incarnation divine est devenue incarnation sociale. Au final, l'actualité du schisme devant le monde, c'est pour Corbin une réponse à la sécularisation moderniste, mais une réponse qui n'aboutit pas dans l'établissement d'une autorité religieuse externe. Comme le protestantisme était une réponse au catholicisme, le schisme et la philosophie prophétique sont pour Corbin une réponse au légalisme et au littéralisme islamique. Ce positionnement pouvant être considéré comme politique exige un positionnement social et propose une vision collective. Il s'agit du seul positionnement explicite de ce type que je connaisse, et avant que certains ne fassent un lien entre ce positionnement corbinien et par exemple la révolution iranienne ou d'autres phénomènes, je vais rappeler un propos de Sayed Osendars, qui a d'ailleurs assez bien connu Corbin en Iran, qui affirmait d'ailleurs dans une entrevue récente sur Ahmed Fardid, donc il affirmait, parlant de Corbin, « Corbin n'est pas une personne mesquine. » Il dit ça ici par opposition à Fardid, qu'il considère comme mesquin. Donc, Corbin n'est pas une personne mesquine, il est comme un enfant. Lorsque l'on traite de l'engagement métaphysique de Corbin, je crois qu'il est très important de garder en tête le fait que Corbin est peut-être quelque chose comme un métaphysicien naïf. Naïf, du moins, quant aux implications politiques possibles de ses propres idées. Donc, en cristallisant son anthropologie spirituelle, et en circonscrivant le défi auquel les Iraniens sont confrontés face à la modernité occidentale, Corbin pense que la réponse à donner est celle du combat spirituel. En 1977, devant un parterre de dignitaires iraniens, Corbin affirmait « La tâche est d'autant plus rude qu'il s'agit de rouvrir des portes que les hommes ont eux-mêmes fermées et maintenant closes et maintiennent closes avec obstination. » C'est alors, en quelque sorte, un combat des hommes contre leur propre refus qu'il s'agit de livrer. Mais c'est précisément ce combat, le combat qui fut envisagé par l'éthique ancienne de l'Iran. Donc, à partir de 1961, le combat spirituel n'est plus seulement une anthropologie spirituelle enracinée dans la philosophie prophétique, c'est un défi auquel doivent répondre en propre les Iraniens, puisqu'ils sont les dépositaires d'une éthique chevaleresque. Combat pour l'âme du monde. La dernière évolution de la notion de combat s'exprime dans l'œuvre à partir du début des années 70 et plus clairement avec la fondation de l'Université Saint-Jean de Jérusalem. D'une description objective du combat spirituel dans le masdéisme et l'ismaélisme à une anthropologie spirituelle enracinée dans la philosophie prophétique, le combat spirituel s'élève encore davantage. Cette dernière élévation est en écho avec son attitude protestante et ouvre à l'ensemble des religions du livre. En gardant l'esprit vivant des mystiques et spirituels de l'Occident, il cherche et organise les pensées cohérentes avec les siennes, ce qui nous renseigne au final davantage sur la pensée propre de Corbin que sur les mystiques et spirituels qu'il utilise. C'est bien connu maintenant, c'est l'époque où Corbin s'initie au mouvement maçonnique et que ses inclinaisons personnelles s'expriment toujours davantage. Les écrits de cette période sont éloquents lorsqu'ils sont parcourus sous cet angle. Ils témoignent de la lutte personnelle de Henri Corbin pour garder vivante une forme d'anarchisme spirituel. On pourrait trouver aussi d'autres qualificatifs. Le 5 août 1978, donc à peine 2 mois avant la mort de Corbin, donc le 5 août 1978, Corbin termine le texte argumentatif pour la 6e réunion de l'Université Saint-Jean de Jérusalem. Il invite ses collègues autour du thème « Combat pour l'âme du monde, urgence de la sociologie ». Si, en 1960, c'est l'expression « vivre avec son temps » ou « être de son temps » qui l'avait motivé à développer l'idée concurrente d'être son temps propre, en 1978, il critique l'expression et la banalisation d'un monde sans âme. Il lui oppose l'urgence de reconquérir l'âme du monde, de mener un combat pour sa sauvegarde. Il dégage 3 aspects à développer pour la 6e session de l'Université Saint-Jean de Jérusalem. L'aspect théologique, l'aspect philosophique et cosmogonique et l'aspect anthropologique. La chose à reconquérir et au cœur de la sauvegarde de l'âme du monde, c'est la Sophia, d'où l'urgence sophianique. La reconfiguration des catégories créateur et créature sous un mode non dualiste permet de revaloriser la notion de présence, explique-t-il dans ce petit mot, comme médiatrice et sophianique. Donc la notion de présence comme médiatrice et sophianique. Bulgakov, Henry Moore, Jacob Boehm, la Shekhinah et la Kabbale devraient être explorés afin de repenser la dimension théologique, propose Corbin à ses collègues. Pour la dimension philosophique et cosmogonique, il s'agit pour Corbin de ramener l'importance des théophanies et de la figure de l'ange qui font face au monothéisme unidimensionnel, au monothéisme abstrait. Le refus de quelque chose comme l'âme du monde, affirme Corbin, est lié au dualisme corps-âme, matière-esprit, etc. Bref, la Sophia médiatrice entre l'inconnaissable et la créature, lieu idéal d'une incarnation spirituelle comme corporéité céleste. C'est tout le thème du Mundus Imaginalisme comme aspect cosmogonico-philosophique qui est à reconfigurer selon Corbin. En ce qui concerne l'aspect anthropologique, c'est le corps subtil comme présence sophianique dans l'homme qu'il s'agit de revaloriser. Car l'homme est le lieu et l'enjeu du combat pour l'âme du monde, mort de Dieu et mort de l'homme sont concomitantes d'un monde qui a perdu son âme. Dans cette prise de position écrite environ 2 mois avant sa mort, Corbin n'est plus en train de décrire objectivement les doctrines de l'Orient ancien ou même d'expliciter la structure de pensée d'une anthropologie spirituelle médiatrice d'une philosophie prophétique. Il prend position et énonce une vision du monde qu'il considère comme essentielle pour rééquilibrer la socialisation et la sécularisation de son époque. Corbin sent qu'il a une responsabilité personnelle. Celle-ci exige de lui un engagement, d'où l'urgence et le vernis militant des écrits de cette période. Une urgence qui amène le philosophe orientaliste à tourner un peu les coins ronds dans l'herméneutique spirituelle comparée qu'il pratique à cette époque-là. Une perspective de travail qui, à mon sens, n'est pas plus choquante que celle d'un essayiste. Reste que la note du 8 novembre 1960, celle qui transparaît dans la première section de sa conférence Eranos de 1961 sur le combat spirituel du chiisme, annonçait déjà cette évolution. Le thème du combat, puisque celle-ci se concluait sur cette idée. C'est Corbin qui parle et il parle au « je » dans le texte, ce qui est un aspect extrêmement rare. Donc, je crois que notre tâche d'homme de science et de notre tâche d'homme tout court sont ici inséparables l'une de l'autre. Ça rappelle aussi le passage qu'on lisait dans les textes sur le protestantisme. Une situation qui transparaît dans l'intrication de la pensée analysant et de la pensée analysée, un style d'écriture qui caractérise pleinement l'œuvre de Corbin à partir des années 70 et qui fait justement écho à son texte de 1937. Une intrication de la pensée analysant et de la pensée analysée, caractéristique structurelle de la pensée corbinienne, c'est-à-dire une pensée assumée qui énonce des défis et se positionne face à eux. Un défi, une lutte contre la catastrophe métaphysique. Cette intrication est probablement ce qui a énervé le plus les historiens conservateurs comme Steven Wasserstrom. Étrangement, l'attitude de Wasserstrom dans sa charge contre Corbin l'aveugle, il me semble, tout autant que l'orientation corbinienne aveuglait Corbin lui-même. Wasserstrom écrit « En bref, le problème des œuvres de Corbin et d'Iliade, c'est qu'elles sont imprégnées de violences métaphoriques d'une manière qui n'est manifestement pas celle de Scholem. Chez Corbin, la violence de sa rhétorique en vieillissant devenait de plus en plus explicite. Il a convoqué la dernière session qu'il a dirigée de son Université Saint-Jean de Jérusalem sur le thème « Combat pour l'âme du monde ». Dans leurs activités publiques, leurs choix de sujets et leurs attitudes rhétoriques, Scholem s'est révélé un homme pacifique, en opposition à ses compagnons relativement agressifs d'Eranos, Corbin et Iliade. Plus loin dans l'ouvrage, Wasserstrom continue, « L'idée d'incognito de Corbin était que l'élite gnostique devait procéder de façon ésotérique, sous le voile du secret. Mon souci, pour parler clairement, et que cette autorité cachée demandée par Corbin n'était en réalité qu'une autre version spiritualisée d'un assaut trop familier contre la démocratie et la science. Le programme de Corbin correspond ainsi à sa cohorte d'intellectuels religieux européens de la génération 1914. Un traditionalisme radical, un conservatisme révolutionnaire, une agression réactionnaire qui était profondément, magistralement équivoque quant au fascisme lorsqu'il n'était pas identique à celui-ci. Cette dérive interprétative du combat spirituel comme fascisme est très problématique. J'affirmais ailleurs que la seule pensée politique avec laquelle il me semble possible de faire un rapprochement et noter les conditionnels de la phrase, c'est peut-être la pensée politique de l'anarchisme de Akinbé. Et la synthèse dialectique entre l'anarchisme ontologique de Akinbé et le combat spirituel de Corbin se trouve peut-être dans les frères Karamazov de Dostoïevski. Plus précisément, dans les figures d'Ivan et d'Alyosha, Dostoïevski présente parfaitement l'anarchisme en faisant répéter à Ivan Karamazov l'anarchisme présenté par Dostoïevski à travers la figure d'Ivan Karamazov lui faisant dire régulièrement « tout est permis », hein, une formule pour ne pas dire un slogan par excellence de l'anarchisme. Donc, cette idée... Donc, malgré cela, j'ai manqué ma ligne, je reprends tout ça. Donc, malgré cela, Ivan a de la difficulté à soutenir pleinement le chaos ouvert par son affirmation. Cette idée est alors mise en équilibre avec l'idée que la seule réponse adéquate au chaos est de soutenir une plus grande probité. C'est pour cela que dans le songe d'Ivan, le grand inquisiteur accuse le Christ du fardeau insoutenable de la liberté. Tu as accru la liberté humaine au lieu de la confisquer, et tu as ainsi imposé pour toujours à l'être moral les affres de cette liberté. Si le combat spirituel n'était qu'une lutte visant à s'opposer à des structures sociales ou politiques, afin de les changer par des structures qui seraient plus libres ou plus équitables, l'humain n'en resterait pas moins esclave. Comme l'écrit Dostoïevski dans le journal de Zosim, le monde a proclamé la liberté, ces dernières années surtout. Mais que représente cette liberté? Rien que l'esclavage et le suicide. Car le monde dit, tu as des besoins, assouvis-les. Tu possèdes les mêmes droits que les grands et les riches. Ne crains donc pas de les assouvir, accrois-les même. Voilà ce qu'on en enseigne maintenant. Pour conclure, je me dois de rappeler que c'est sous l'égide de la liberté spirituelle que l'œuvre de Corbin a été écrite. Une liberté, cœur et corps subtil d'Eranos, il me semble, qui lui faisait dire, en hommage à la créatrice du lieu, « Parce qu'ici, à Eranos, nous n'avons jamais eu le souci d'être conformes à un modèle déjà donné, le souci d'une orthodoxie quelconque, parce que notre seul souci a été d'aller jusqu'au bout de nous-mêmes, jusqu'au bout de cette vérité qui, nous le savons, ne s'entrevoit jamais qu'en fonction de notre effort. » Ce qui rappelle encore les propos de M. Jambet tantôt. De notre probité et de la capacité de notre cœur. Par cette liberté et cette spontanéité, donc, nous sommes tous ensemble, non pas certes en unisson, mais une polyphonie aux voix individuellement différenciées. En une époque de désarroi comme la nôtre, une chose comme Eranos répond à une urgence, à celle qui a ménagé pour tant d'hommes de science un lieu où ils ont pu être intégralement eux-mêmes, à Olga Frobe, une reconnaissance qui la suit au-delà de ce monde. Donc, c'est le moment d'écouter l'intervention d'Henri Corbin sur le djihad. Donc, mais avant, une petite mise en contexte de l'extrait. Donc, en effet, en 1959, à l'émission de Pierre Cipriot sur France Culture, Corbin est invité à venir intervenir en compagnie d'Alphonse Dupron sur le thème des croisades et du djihad. Rappelons que Dupron fait partie de l'entourage intellectuel de Corbin, notamment parce qu'ils ont respectivement les deux été élèves de Paul Alfandéry. Pour ceux qui ne le savent pas, Corbin a assisté à la fin des années 20 à plusieurs cours de Paul Alfandéry. C'est même lui qui a signé le rapport d'évaluation du mémoire de fin d'études que Corbin avait rédigé sur Louise de Léon en 1928. En haut de ces considérations de filiation, le déclencheur de l'émission, c'est plutôt la publication en 1959 du deuxième volume de La chrétienté et l'idée de croisade de Paul Alfandéry. Le premier volume avait quant à lui été publié en 1954. Alphonse Dupron est au cœur de cette parition puisque c'est lui qui a établi le texte des volumes d'Alfandéry. Enfin, le contenu des volumes d'Alfandéry provient de ses cours à l'EPHE, cours prononcés à l'époque où Corbin était lui-même élève de la vénérable institution. Toutefois, il n'est pas clair si Corbin a assisté aux séances d'Alfandéry là, sur la notion de croisade, même si en termes de temporalité, tout ça se passe en même temps. Précisons également autour de cette émission que Pierre Cipriot, à titre de secrétaire général de la revue La Table Ronde, avait déjà obtenu 4 textes de Corbin publiés entre 1956 et 58. Donc, Cipriot connaît donc Henri Corbin lorsqu'il le reçoit à son émission de 59. Le contact le plus ancien que j'ai réussi à établir entre Cipriot puis Corbin provient d'une autre émission de France Culture du 29 juillet 1955, lorsque Corbin est invité à prendre parole autour de l'œuvre de Jung. Écoutons maintenant l'extrait audio. Ça dure 6 minutes.
Si. Non, les choses sont-elles plus claires? Évidemment, le seul flamme dont je me sens à l'aise pour parler est cette flamme qui forme un mur au sein de l'islam majoritaire. Islam chiite, entre autres, islam iranien. Ce n'est pas cet islam auquel ont eu affaire directement les croisés. Ou plutôt, c'était un aspect sous lequel ils ont pu présenter, c'était le chiisme ismaélien. Ce qui aurait pu en ressortir, les conséquences bienheureuses que nous pouvons entrevoir, la démarche extraordinaire de Sinan, le grand chef de l'ismaélisme syrien, peut nous laisser présenter. Lorsque Sinan fit une démarche auprès du roi de Jérusalem, dans l'espoir d'initier au christianisme, et sans doute ayant dans l'idée que peut-être l'ordre ismaélien pourrait être reconnu à la façon d'un ordre du genre des Templiers. Nous connaissons cet épisode par Guillaume de Tyr, les choses en sont restées là. Pour reprendre ce qui nous apparaît le plus communément sous l'idée de Jihad, je tiens évidemment à prendre à la lettre certains versets coraniques, tels aussi que certains hadiths en font le commentaire. Il semble qu'il y ait un impératif posé aux croyants de livrer le combat pour amener tous les hommes à la reconnaissance du Dieu unique annoncé par le prophète Mohammed. Mais ceci concerne essentiellement le tawhid exotique, celui de la foi commune. Il n'y aurait pas de question qui se pose s'il n'y avait pas également en islam, un ésotérisme, une conception ésotérique du Tao-Té avec lequel alors tout chose. Et sous quelque aspect on le prenne, le chiisme, celui des Ismaéliens, dans une moindre mesure celui des Dodécimains, est également une religion ésotérique. Si nous considérons, par exemple, la manière dont les Ismaéliens ont donné une herméneutique, une interprétation spirituelle des 7 obligations fondamentales de la foi islamique, nous constatons que la dernière, le djihad, se transforme en idée d'un combat spirituel, pour lequel on distingue plusieurs catégories, le combat oranique, le combat spirituel, et le combat intellectuel, et enfin un combat au sens proprement métaphysique.
Le djihad, c'est-à-dire l'idée musulmane de la guerre sainte.
C'est le combat. Jihad veut dire simplement combat, veut dire guerre, veut dire. Maintenant, pour nous attacher plus spécialement au chiisme des Dodécimains, au chiisme des Dodécimains, celui qui est depuis 5 siècles la religion officielle de l'Iran, j'énoncerai tout d'abord ce principe qui me semble fondamental, c'est que le chiisme vit en période de l'imam caché, et que, au temps de l'occultation de l'imam, il est absolument exclu que quelqu'un puisse donner l'ordre du Jara. Semble que nous ayons là déjà une différenciation capitale à l'égard de l'islam majoritaire. C'est un impératif qui remonte à un hadith qui nous a été transmis depuis le quatrième imam, Ali ibn Hussein, et qui nous dit ceci, qu'aucun d'entre nous les chiites, ne passe à l'attaque avant que n'ait paru l'imam résurrecteur, sinon il en serait de lui comme de l'oiseau. L'oisillon qui s'envole trop tôt de son lit, que ses ailes ne peuvent porter, qui tombe aux mains des enfants et qui devient leur joyau.
Et c'est pourquoi les chiites distinguent ce qu'ils appellent le djihad mineur. Et qui est ce combat matériel, battu avec des armes matérielles, et le djihad majeur, qui est le combat spirituel. Toute une série de hadiths que nous trouvons dans le protocole des chiites soutiennent cette idée. Ici, par exemple, les hommes meurent physiquement une fois, meurent 70 fois chaque jour. Celui qui livre le combat contre lui-même s'oppose à ses passions mauvaises, aux shaitans, aux démons qui circulent dans ses lèvres. Mais c'est qu'au fond, cette idée du combat spirituel est liée profondément à l'idée de la résurrection, à l'idée de la parousie, de la réapparition de l'imam caché, tel que le conçoit le chiisme. L'imam caché, ce n'est pas une disparition matérielle. Si l'imam est caché, c'est avant tout parce que les hommes se le sont voilés à eux-mêmes, que leur conscience est impuissante à le voir. Il y a une corrélation intime entre la manifestation de l'imam et la capacité des hommes à le voir. C'est pourquoi il serait absolument inutile que maintenant ma vie se déclare, personne ne le reconnaîtrait. Le combat spirituel tend donc d'abord à ce dévoilement des consciences duquel dépend la parousie de l'imam. Et c'est pourquoi tout à l'heure, en vous entendant parler de l'épée, du symbolisme de l'épée, j'ai pensé aussi à une figure, un symbole qui revient fréquemment dans les hadiths du chiisme djihadiste, tels qu'ils ont été transmis par les imams. Les compagnons de l'imam, ceux qui seront ses coopérateurs lors de la résurrection, vivent actuellement avec lui dans un pays mystique de l'huitième climat, l'Oscalia, et eux aussi assisteront dans un combat où ils manieront l'épée. Mais on nous avertit que le fer où est forgé cette épée, ce n'est pas le fer matériel de notre monde, c'est une épée telle que si l'un d'entre eux en donne un coup sur une montagne, cette montagne tout le coup vole en éclat. Alors peut-être nous pouvons comprendre que si celui qui à ce moment-là reconnaîtra le message de l'imam et l'introduisait comme un prince, ou si celui qui le refuse est mis à mort, cela aussi nous transpose sur un plan bien connu de l'ésotérisme, mais qui est très loin de correspondre aux idées communes de la conscience naïve et en général celui de la confession de foi ésotérique.